Voilà. Maintenant, nous allons passer au message de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20.
So now we'll go to the Revelation, chapter 14, verses 14 to 20.
Donc, plutôt cette semaine, j'ai lu un article sur la colère de Dieu.
Earlier this week, I was reading an article on God's wrath.
Et l'auteur de cet article déclarait que la colère de Dieu était un thème négligé dans les églises aujourd'hui.
And the author was actually saying that the wrath of God is something that we don't pay much attention to in the churches today.
Donc je me suis dit, cet auteur ne doit pas connaître LifePoint Brussels.
So I thought this author probably doesn't know LifePoint Brussels.
Donc, la semaine dernière, le thème, c'était le jugement et l'enfer, et c'est encore le thème de notre texte aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'Apocalypse 14.
So, last week, we were talking about judgment and hell, and it is also the subject we're talking about today in Revelation 14.
Le livre de l'Apocalypse contient beaucoup de thèmes différents.
The Book of Revelations has many different themes.
Il y a des images de Jésus dans sa gloire pour nous aider à l'adorer.
You can see images of Jesus' glory that will help us to worship him.
L'Apocalypse est aussi un livre comme Daniel.
And it's also a book like Daniel
qui inspire le peuple de Dieu à persévérer malgré l'oppression et la persécution.
That inspires God's people to persevere although they have oppression and they are being persecuted.
L'Apocalypse nous rassure que le mal sera jugé.
Revelation reassures us that evil will be judged.
Que Jésus va revenir.
And Jesus will return.
Et toute la création sera renouvelée.
And the whole creation will be renewed.
Mais aussi un des thèmes est la colère de Dieu.
But another theme is also God's wrath.
Notre espérance et la joie qui nous attend est impossible sans la colère de Dieu.
Our hope and the joy that awaits is impossible without God's wrath.
Pour que la nouvelle terre et les nouveaux cieux soient différents de ce monde.
In order for the new earth and new heaven to be different from this world.
Dieu doit juger le péché, le punir et l'éliminer.
God has to judge sin, punish it and destroy it.
Ce thème de la colère de Dieu peut nous rendre mal à l'aise.
This theme of God's wrath may make us feel uncomfortable.
Mais c'est le thème de notre texte et donc Dieu veut que nous connaissions ce thème.
But it's the theme of our text and God wants us to know that theme.
Aujourd'hui, notre texte présente le retour de Jésus pour sauver les siens et punir ceux qui le rejettent.
So our text today presents the return of Jesus to save his people and punish those that reject him.
Donc, comme à chaque fois dans l'Apocalypse, nous allons voir plein de symboles.
So like always in Revelation, we will see a lot of symbols.
Mais quand on comprend le contexte de l'Ancien Testament, ces symboles deviennent assez simples.
But when we realize the context of the Old Testament, these symbols are quite simple.
Nous allons voir que l'enseignement de notre texte est l'enseignement de la Bible du début jusqu'à la fin.
We will see that the teaching of our text is the teaching of the Bible from the beginning to the end.
Mais dans l'Apocalypse, c'est avec des images vives.
But in Revelation, it has very vivid images.
Donc le message en une phrase, Jésus viendra pour sauver les siens et punir les pécheurs.
So the message in one sentence is Jesus will come to save his own and punish the sinners.
Nous commençons au verset 14 qui annonce le retour de Jésus. Je vais lire d'abord en français et ensuite en anglais.
So we will start with verse 14 which announces the return of Jesus. We'll read in French first and then in English.
Verset 14. Je regardais et je vis une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante.
So then I looked and behold a white cloud and seated on the cloud one like a son of man with a golden crown on his head and a sharp sickle in his hand.
Donc notre texte commence avec quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme assis sur la nuée.
So our text starts with someone who looked like a son of man sitting on the cloud.
Donc ici, Jean fait allusion à un de ses textes préférés.
So here, John is actually talking about one of his favorite texts.
C'est le texte de l'Ancien Testament, Daniel 7.
It's in the Old Testament, Daniel 7.
Et ce texte revient encore et encore dans le livre de l'Apocalypse.
And this text is coming again and again in Revelation.
Mais c'est pas juste le texte préféré de Jean.
But it is not just John's favorite text.
Dans les évangiles, ça semble aussi être un des textes préférés de Jésus.
In the Gospels, it seems like it's also one of the preferred ones that Jesus had.
Ce titre Fils de l'homme est le titre préféré de Jésus.
That title, the Son of Man, is the preferred title of Jesus.
Et aussi cette image du Fils de l'homme assis sur les nuées est aussi l'image que Jésus utilise pour décrire son ministère après la croix.
And this image of man sitting of a person sitting in the clouds, it's also something that Jesus uses to describe his ministry after the cross.
Si c'est le texte préféré de Jean et un des textes préférés de Jésus, on devrait s'y intéresser.
So if it's the preferred text of John and also of Jesus, we should surely pay attention to it.
Alors pourquoi Daniel?
So why Daniel?
Donc le livre de Daniel est l'histoire de Daniel et ses trois amis.
So the book of Daniel is the story of Daniel and his three friends.
Ils sont amenés en Babylone lors de l'exil.
And they are in Babylon because of exile.
Et ce livre de Daniel est écrit pour encourager Israël.
And this book of Daniel is written to encourage Israel.
Il enseigne comme l'Apocalypse.
It teaches just like Revelation.
Que quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de persécution, quel que soit le royaume qui persécute le peuple de Dieu,
that no matter what happens, no matter how much persecution there is, no matter what kingdom persecutes the people of God,
Dieu règne et son royaume triomphera.
God reigns and his kingdom will triumph.
Et pour cette raison, Jean continuellement, encore et encore, se réfère au livre de Daniel.
And that's the reason why John again and again speaks about Daniel.
Quand on arrive dans Daniel chapitre 7,
when we read Daniel chapter 7,
toujours ce même thème. Nous avons maintenant un individu comme un fils d'homme.
Again, the same theme. We have someone like a man of like a son of man.
Et il vient vers un autre personnage, l'ancien des jours, qui est Dieu.
And he comes toward another person that's the ancient of days, meaning God.
Et Dieu donne à ce fils de l'homme toute la domination, toute la gloire et le règne sur tous les peuples.
And God gives the son of man all dominion, glory and rule over all people.
Donc dans Daniel 7, 14, on voit que ce fils de l'homme,
so in Daniel 7, 14, we see that this son of man
règnera et sa domination est une domination éternelle.
He will reign and his dominion will be eternal.
Elle ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit.
It will not cease and his kingdom will never be destroyed.
Donc si Jésus est ce fils de l'homme qui va au Père,
so if Jesus is the son of man that goes towards the Father,
nous voyons sa gloire révélée.
We see his glory revealed.
Dans son ministère à la transfiguration.
In his ministry in the transfiguration.
À sa résurrection.
When he is resurrected.
À son ascension.
With his ascension.
Ensuite à la destruction du temple.
Then with the destruction of the temple.
Et maintenant, il est dans la phase du ministère du Fils de l'homme où il est assis à la main droite du Père.
And now he is in the ministry of the Son of Man when he's sitting at the right of the Father.
Et la dernière phase de son ministère, ça sera revenir pour juger le monde.
And the last part of his ministry will be to come back to judge the world.
Et donc c'est cette dernière partie du ministère du Fils de l'homme auquel Jean s'intéresse ici.
And so it's this last part of the ministry of the Son of Man that John is talking about right here.
Jésus va revenir.
Jesus will return.
À part une trentaine d'années où Jésus était sur terre.
Except for about 30 years when Jesus was on earth.
Le peuple de Dieu attend le Messie.
God's people are waiting for the Messiah.
Que ce soit dans l'Ancien Testament.
Either in the Old Testament.
Après le premier péché, cette promesse cachée dans la Genèse 3:15.
After the first sin and the promise that's hidden in Genesis 3:15.
Ou depuis l'ascension de Jésus.
When since Jesus' ascension.
Le peuple de Dieu attend son Messie.
God's people is waiting for the Messiah.
Et Jésus est le Fils de l'homme assis dans les nuées.
And Jesus is the Son of Man sitting on the cloud.
Il est décrit dans notre texte avec une couronne d'or.
As written in the text, wearing a golden crown.
Il possède toute l'autorité pour juger le monde.
And he has all authority to judge the world.
De temps en temps, je me demande s'il est raisonnable aujourd'hui de croire au retour physique de Jésus.
Sometimes I wonder if it's reasonable to believe in the return, in the physical return of Jesus.
Dans Matthieu 24 et 25, Jésus enseigne qu'il va revenir pour juger le monde.
In Matthew 24 and 25, Jesus is teaching us that he will come back to judge the world.
Mais il enseigne aussi que personne ne sait quand il va revenir.
But he's also teaching that nobody knows when he will return.
Et donc il faut toujours être prêt.
So we need to be always ready.
Dans chaque génération, Jésus aurait pu revenir.
In every generation, Jesus could have come back.
Jésus peut toujours pourrait revenir dans nos vies.
Jesus could return in our lives.
Mais de temps en temps, je me demande si nous ne nous sommes pas trompés.
But sometimes I wonder, maybe we made a mistake.
Ça fait déjà 2000 ans que l'Église attend.
It's been 2000 years now that the church has been waiting.
Donc, est-il toujours raisonnable d'attendre?
Is it still reasonable to wait?
J'ai confiance qu'il va revenir parce qu'il est venu une première fois.
I am confident in the fact that he will come back because he came a first time.
Pour moi, l'expansion du christianisme au premier siècle ne s'explique que par l'existence et la première venue de Jésus.
For me, the expansion of Christianity during the first century can only be explained by the fact that Jesus exists and he came.
Je trouve qu'il aurait été beaucoup plus dur de croire à sa première venue qu'au second, à son retour.
I think it must have been way harder to believe in his first coming rather than to believe in his coming back.
Maintenant, je me dis, s'il est venu une fois, pourquoi pas deux?
Because now I'm saying, okay, he came once, why shouldn't he come back a second time?
La première venue de Jésus était promise de la Genèse à Malachie.
The first coming of Jesus was a promise from Genesis to Malachi.
Et Jésus est venu.
And Jesus came.
Comme Dieu a gardé sa promesse pour la première venue, pourquoi pas sa deuxième venue?
And since God kept his promise for the first coming, why shouldn't he for the second one?
Maintenant, ça fait quand même 2000 ans qu'on attend.
So, but the truth is, we've been waiting for 2000 years now.
Est-ce que c'est trop longtemps?
Is it too much?
Est-ce que plus on attend, moins son retour devient probable?
Is it that the more we wait, the less his return is likely to happen?
Et pourtant, le délai qu'on a attendu pour son retour est toujours moins long que le délai entre la promesse et sa première venue.
But the time we've been waiting for his return is actually still less longer than the time from his first announcement of his coming, of his first coming.
Et peut-être que nous pensons que 2000 ans, c'est long.
Maybe we're thinking that 2000 years is a lot of time.
Mais cette question se posait déjà au premier siècle.
But this question was already asked during the first century.
Jésus n'était même pas parti 30 ans que l'Église se demandait si Jésus avait déjà pris trop de temps pour revenir.
Jesus was just gone for 30 years and the church was already wondering, is he taking too long to come back?
Et donc 2 Pierre chapitre 3 verset 9 répond à cette question.
And so 2 Peter chapter 3 verse 9 is the reply to this question.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but he is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Donc ce que Pierre nous enseigne, c'est que plus Dieu attend, plus de personnes vont entendre l'évangile et seront sauvées.
So what Peter is teaching us here is that the more God waits, the more people will hear the gospel and be saved.
Et donc pour cette raison, je suis ravi que Jésus n'est pas venu avant ma naissance personnellement.
And for this reason, I'm glad that Jesus didn't come before I was born.
Et maintenant, j'espère qu'il revienne le plus tôt possible pour qu'il puisse éliminer toutes les souffrances dans le monde et les injustices.
And I hope that he will come back the soonest possible in order to put an end to the suffering and injustice in the world.
Mais même s'il devait attendre encore 10 000 ans, alléluia.
But even if it takes 10,000 more years, I say alléluia.
Plus de personnes seront sauvées et nous aurons plus de frères et sœurs en Christ pour l'éternité.
Because more people will be saved and we will have more brothers and sisters in Christ for eternity.
Donc nous lisons dans verset 14 que Jésus a la faucille tranchante dans sa main.
So we read in verse 14 that Jesus has a sharp sickle in his hand.
C'est le moment de la collecte.
And this is the time for collection.
Nous lisons maintenant dans versets 15 et 16 une bonne nouvelle pour les croyants.
And we read in verses 15 to 16 a good news for the believers.
Donc je vais lire en français. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre et la terre fut moissonnée.
And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud. Put in your sickle and reap, for the hours to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. So he who sat on the cloud swung his sickle across the earth, and the earth was reaped.
Nous allons voir dans notre texte deux récoltes.
We will see in our text two harvests.
La première récolte est faite par Jésus dans versets 15 et 16 que nous venons de lire.
The first one is made by Jesus in the verses 15 and 16 that we just read.
Et elle correspond à la moisson des croyants pour la bénédiction.
And it is the harvest of the believers for the blessing.
Ensuite, nous verrons une deuxième moisson par un ange.
And we will see a second harvest done by an angel.
Et ce sera la récolte des non-croyants pour le juste jugement des péchés.
And it will be the harvest of the non-believers for the just judgments of their sins.
Donc quand Jésus revient, il amène le salut pour les siens et la punition pour ceux qui le rejettent.
So when Jesus returns, he will bring the final salvation of his people and the punishment of those who reject him.
Dans Matthieu chapitre 13, il y a une parabole qui est similaire à ce que nous voyons dans notre texte.
There's a parable in Matthew chapter 13 that is similar to what we see here.
On l'appelle souvent la parabole de la mauvaise herbe et du bon grain.
We often call it the parable of the weeds and the wheat.
Elle décrit aussi le retour de Jésus avec une moisson.
And it also describes Jesus' return with a harvest.
Lors de cette moisson de fin des temps,
during that harvest of the end of times,
donc les mauvaises herbes seront brûlées.
The weeds will be burned.
Et le blé amassé dans le grenier du propriétaire du champ.
And the wheat will be gathered in the barn of the owner of the field.
Ce que nous voyons quand même dans notre texte, dans ces deux versets, c'est que cette première moisson demeure assez vague.
What we see in the text in both those descriptions is that it is quite vague.
Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'un ange dit à Jésus qu'il est l'heure de moissonner.
The only thing we see is that an angel is telling Jesus it is time to harvest.
Car la récolte de la terre est mûre.
Because the harvest of the land is ripe.
Et puis c'est ce que Jésus fait, mais aucun autre détail n'est donné.
And then this is what Jesus does, but there is no other details.
Et donc nous supposons que c'est la moisson des croyants.
So we think it is the harvest of the believers.
À cause de tous les éléments qui manquent, qui se trouvent dans la deuxième moisson.
Because of all the things that are missing, which are found in the second harvest.
Il n'y a pas de feu ou la colère de Dieu ou le versement de sang dans cette moisson.
There is no fire, no wrath of God or shedding of blood in this harvest.
Et donc cette moisson est présentée positivement.
So it is a positive harvest.
Et les disciples de Jésus sont les bonnes graines que Jésus récolte.
And Jesus' disciples are the good seeds that he will reap.
Le retour de Jésus est la meilleure des nouvelles pour les croyants.
For the believers, the return of Jesus is the best news.
Dieu nous promet la vie éternelle.
God has promised eternal life.
Et nous l'avons déjà.
And we already have it.
Mais au retour de Jésus, nous en profiterons comme jamais auparavant.
But when Jesus returns, we will be able to enjoy this like never before.
Nous aurons des corps glorifiés.
We will have glorified bodies.
Des corps incapables de souffrir ni de pécher.
Bodies that are unable to suffer or sin.
Nous vivrons pour le reste de l'éternité dans la présence de Jésus sans aucun encombrement.
And we will be in the presence of Jesus for the eternity without any burden.
Donc ces promesses doivent nous encourager à vivre pour la gloire de Dieu et garder sa parole.
So these promises should encourage us to live for the glory of God by applying God's word.
Mais maintenant, vu le peu d'espace dédié à cette moisson dans le texte,
but given the limited space that is dedicated to this harvest in the text,
le salut des saints n'est pas l'idée principale de notre texte.
The salvation of the saints is not the main theme of our text.
Plutôt, c'est la deuxième moisson pour le jugement dans les versets 17 à 20.
But it is rather the second part for the harvest, for the judgment, in verses 17 to 20.
Donc, lisons maintenant notre texte d'abord en français, puis en anglais.
So let's read first in French and then in English.
Verset 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres.
Then another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. And another angel came out from the altar, the angel who has authority over the fire, and he called with a loud voice to the one who had the sharp sickle. Put in your sickle and gather the clusters from the vine of the earth, for its grapes are ripe. So the angel swung his sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden outside the city. And blood flowed from the wine press as high as a horse bridle for 1,600 stadia.
Et donc maintenant, pour cette deuxième moisson, c'est un ange qui tient cette faucille tranchante.
So for this second harvest, it is an angel that has the sickle in his hand.
Et un autre ange lui dit de lancer sa faucille car les raisins sont mûrs.
And another angel tells him to throw the sickle because the grapes are ripe.
Il est clair dans les versets que nous venons de lire que c'est une moisson pour le jugement.
It is clear in the verses that we just read that this is a judgment harvest.
Dans verset 18, l'ange a l'autorité sur le feu.
In verse 18, the angel has authority on fire.
Dans verset 19, les raisins collectés sont mis dans une grande cuve de la colère de Dieu.
In verse 19, the collected grapes are put in a great winepress of God's wrath.
Dans verset 20, la collecte des raisins est écrasée dans la cuve à l'extérieur de la ville.
And according to verse 20, the grapes are crushed in the winepress outside of the city.
Sortir de la ville symbolise être séparé de la présence de Dieu.
The going outside of the city symbolizes the fact that they're separated from the presence of God.
Et ensuite, le jus de raisin rouge symbolise le sang de ceux qui sont jugés.
And the red grape juice symbolizes the blood of those that are judged.
Et donc ici, il est clair qu'il s'agit d'une moisson du jugement de Dieu.
So this, it is clear that it is a harvest that symbolizes God's judgment.
Mais encore, comme la première moisson, ce jugement reste toujours assez vague.
But still, like the first harvest, this remains quite vague.
Il n'y a aucun indice dans notre texte ici sur qui va être jugé.
There is nothing telling us who will be judged.
Et donc, comme Jean utilise des images connues de l'Ancien Testament,
and because John uses known images from the Old Testament,
des images connues pour le jugement, il peut nous épargner des détails.
That are known for the judgment, he can spare us details.
Donc nous avons cette image de pressoir à raisin aussi dans Joël 4, versets 12 à 13.
We have that image of the wine press in Joel 3, verses 12 to 13.
Oui, pour tout le monde, si elle dit 3 au lieu de 4, c'est parce que dans les Bibles en anglais, c'est des versets différents.
Well, I mentioned a different chapter because it's different in the French Bible and in the English Bible. Oui,
c'était juste pour la protéger. Elle sait que 4, c'est 4.
I know that 4 is 4.
Donc, dans Joël, la versée de sang des ennemis de Dieu est la punition juste pour ceux qui ont versé le sang du peuple de Dieu.
So in Joel, the shedding of the blood of God's enemy is the just punishment for those who shed the blood of his people.
On a encore cette image de raisin pressé dans Ésaïe chapitre 63.
We have the same image of grape being pressed in Isaiah 63.
Dans Ésaïe 63, la nation d'Édom sert comme représentant de tous les ennemis de Dieu.
In Isaiah 63, the judgment of the nation correspond the salvation of God's people.
Et donc Ésaïe chapitre 63 verset 6, nous voyons que Édom est piétiné comme des raisins au pressoir.
And we see that Edom is crushed like the grape in the press.
Et dans verset 4 d'Ésaïe 63, nous voyons comme dans notre passage que le jugement des pécheurs correspond au même moment du salut des saints.
And in Joel 4, we see that the judgment is
Dans Ésaïe 63, verset 4, nous voyons aussi que le jugement des ennemis de Dieu correspond au même moment du salut des saints.
Okay, we see that the judgment correspond to the same moment as the savior of the saints.
Et donc, il y a d'autres passages qui décrivent ce que Édom fait.
So there are other passages that describe what Edom is doing.
Édom est condamné pour sa trahison envers Israël.
He is condemned for his betrayal against Israel.
Et aussi ses attaques contre Israël.
And for his attack against her.
Et donc, avec ce contexte de l'Ancien Testament, avec Joël 4 et Ésaïe 63.
And so with that context of the Old Testament in Joel 4 and Isaiah 63.
On peut comprendre un peu mieux qui est jugé dans l'Apocalypse 14.
We can better have a better understanding of who is judged in Revelation 14.
Le jugement est réservé aux ennemis de Dieu et aux ennemis de son peuple.
Judgment is reserved for the enemies of God and the enemies of his people.
Ça correspond à tous ceux qui rejettent Jésus comme sauveur.
It is all those that reject Jesus as a savior.
Et donc, comme j'ai promis au début, la leçon est assez simple dans ce texte, même si les images peuvent être compliquées.
And like I promised in the beginning, the lesson is quite simple, even though the images are complicated.
Notre texte montre que Jésus va revenir.
Our text is showing that Jesus will come back.
Ses enfants, l'Église, les saints sont ceux qui sont rachetés et sauvés par Jésus.
His children, the church, the saints are those who are redeemed by Jesus.
Ils sont sauvés du jugement de Dieu.
They are saved from God's judgment.
Et le reste seront jugés et punis.
And the rest will be judged and punished.
Donc dès qu'on parle de jugement des non-croyants,
so once the moment we're talking about judging the non-believers,
on peut se demander si ce jugement est juste.
We can ask ourselves, is this a just judgment?
Nous connaissons tous des non-croyants qui sont tellement gentils.
We all know some non-believers that are really nice.
Nous en connaissons aussi qui ont connu beaucoup de souffrances.
And we know some also that have suffered a lot.
Et donc nous pouvons nous demander s'il est juste qu'ils soient condamnés.
So we may wonder if it is just for them to be condemned.
Ce que la Bible enseigne, c'est que le salut ne dépend pas de nos actions.
What the Bible is teaching us is that our salvation does not depend on our actions.
Ni de notre comportement, notre personnalité, l'environnement dans lequel on a grandi ou notre passé.
Nor from our behavior, our personality, or the place we grew up, our past.
Si c'était le cas, personne ne serait sauvé.
If that would have been the case, nobody would have been saved.
Plutôt, le pardon du péché est obtenu par la foi.
But the forgiveness of sin is acquired by faith.
La Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs.
The Bible teaches us that we are all sinners.
Et comme Dieu est parfait, même un tout petit péché nous rend indignes de la vie éternelle.
And because God is perfect, just a little sin makes us unworthy of eternal life.
Mais le problème humain va au-delà.
But the human problem goes beyond that.
C'est pas le fait de pécher qui fait de nous des pécheurs.
It is not the fact that we are sinning that makes us sinners.
Nous sommes nés pécheurs et ennemis de Dieu.
But we are born sinners and enemy to God.
Donc la justice, c'est que tous soient jugés.
So justice is that all should be judged.
Jugé par nos pensées, nos actions et nos paroles.
Judge for our thoughts, our actions, our words.
Donc avec cette perspective, nous devrions tous craindre le retour de Jésus.
So with this in mind, we should all be afraid of Jesus' return.
Mais maintenant, voici la bonne nouvelle.
But here is the good news.
Nous n'allons pas tous recevoir la justice de Dieu.
We will not all receive God's justice.
Dieu, par sa grâce et sa miséricorde,
God, with his grace and his mercy,
a eu pitié de nous.
Had mercy on us.
Il nous a envoyé son Fils Jésus.
And he sent us his son, Jesus.
Et Jésus est le chemin pour échapper cette deuxième moisson.
And Jesus is the way to escape this second harvest.
Nous savons tous, même les non-croyants,
we all know, even non-believers,
qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde.
That there is something wrong in this world.
Même ceux qui rejettent la Bible,
even those who reject the Bible,
ont leur propre code de moralité,
have their own morality code,
et même leur propre code, ils n'arrivent pas à les garder.
And they cannot even keep their own code.
Donc nous savons tous qu'il y a un problème avec nous.
So we all know that there's a problem with us.
Toutes les guerres, les divisions et les maladies nous montrent qu'il y a un problème dans le monde.
All these wars, those divisions, diseases shows us that there is a problem in the world.
Il nous faut un remède.
We need some remedy.
Si nous sommes en colère lorsqu'on entend parler de violence contre les enfants,
if we are angry when we hear about violence against children,
ou d'autres injustices dans le monde,
or other injustice in the world,
il faut savoir que Dieu aime les victimes plus que nous.
We should know that God loves the victim more than we do.
Et donc il a plus de colère contre le péché que nous.
And so he is even angrier than us against sin.
Il aime la justice plus que nous.
He loves justice more than we do.
Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils.
And that is the reason why he sent his son.
Sur la croix, Jésus prend le péché du monde.
On the cross, Jesus bears the world's sin.
Et sur la croix, il a fait face à la colère de Dieu envers nos péchés.
And on the cross, he faced the wrath of God against our sin.
Devant Dieu, nous avons tous quelque chose en commun.
In front of God, we all have something in common.
Nous sommes tous incapables de vivre des vies qui lui plaisent.
We are all unable to live the lives that pleases him.
Mais heureusement, ce n'est pas notre vie qui peut nous sauver.
But fortunately, it is not our life that can save us.
C'est la vie parfaite de Jésus qui a payé pour le péché de tous ceux qui croient en lui.
But it is the perfect life of Jesus who paid for all those that believe in him.
Et donc maintenant, je vais vous appeler à répondre à ce message. D'abord les chrétiens.
And I would like you now to reply to that message and Christians first.
Je sais que parfois on peut avoir un peu honte de passages comme celui-ci ou de ce thème.
I know that sometimes we can be ashamed of this theme or this kind of passages.
Parfois on veut essayer de garder les sujets de la colère de Dieu et le jugement secret.
And sometimes we want to keep the subject of God's wrath and judgment as a secret.
Peut-être c'est pour être plus accepté ou sembler plus tolérant.
Just because we want to be accepted or be more tolerant.
Mais si la colère de Dieu existe vraiment.
But if God's wrath is real,
il n'est pas aimable envers son prochain de le cacher.
It is not kind to your neighbor to hide it.
Maintenant pour les non-croyants.
And for the non-believers.
Donc si cette idée du jugement, de la colère de Dieu vous prend à contre-pied,
if this idea of God's wrath gets on your nerves,
je vous invite à essayer de ne pas être en colère quand vous entendez parler d'une injustice.
I would like you to try not to express anger if you hear about injustice.
Il faudra aussi dire à une victime qu'elle ne mérite pas la justice.
You should tell a victim that she doesn't deserve justice.
Maintenant, d'autre part, si vous trouvez que ce n'est pas juste que certains soient sauvés et d'autres pas,
and on the other side, if you think that it is unjust that some are saved and some not,
rappelez-vous que la justice demande que nous soyons tous jugés.
Remember that justice requires that we all be judged.
Donc ce n'est pas juste que certains soient sauvés.
So it is not fair that some are saved.
C'est la bonté de Dieu.
It is God's kindness.
Mais la bonne nouvelle maintenant pour tout le monde, c'est que nous ne sommes pas encore au jour du jugement.
The good news right now for everybody is that we are not yet at the time of judgment.
Nous avons tous une invitation.
We all are invited.
Dans Matthieu 11, verset 27, Jésus exprime son cœur envers nous.
In Matthew 11, 27, Jesus expresses his heart toward us.
Il nous dit qu'il est doux et qu'il est tendre.
He tells us that he is gentle and tender.
Et il invite tout le monde à venir vers lui pour le salut.
And he invites everyone to come towards him for salvation.
Sur la croix, il a fait face à la colère de Dieu qui était envers nos péchés.
On the cross, he faced God's wrath that was against our sin.
Et donc, je veux vous inviter à accepter joyeusement le salut offert.
So I'd like to invite you to joyfully accept the salvation that is offered.
Et une fois que vous l'avez accepté, faites-le connaître.
And once you have accepted it, make it known.
Que plus de personnes puissent connaître cette joie qu'il y a en Christ.
So that more people can know this joy that is in Christ.
Prions ensemble.
Let us pray together.
Notre Seigneur,
our Lord,
nous venons d'avoir un message simple,
we just had a simple message,
mais avec des implications graves.
But that have heavy implications.
Mon Père, je prie que tu nous fasses sentir le poids de cet enseignement.
I pray that you could make us feel the burden of this teaching.
Pour les chrétiens, que nous voulons plus te suivre.
For the Christians that we want to follow you more.
Et vivre pour toi, vivre pour te rendre célèbre.
And live for you, live to make you known.
Maintenant, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
And I also pray for those that don't know you.
Je prie que tu te révèles à eux.
That you would be revealed to them.
Pour la première fois qu'ils puissent goûter ta bonté.
For the first time that they can know your kindness.
Ton amour et ta miséricorde.
your love and your mercy,
et qu'ils puissent te connaître comme Père.
And that they can know you as a father.
Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.
I pray those things in Jesus' name. Amen.